and the wind's 120 knots to the west.
Radio X Files avec Christian Page et Camille.
Oh my God.
Radio X.
At the dawn of America, the frontier was undiscovered. But for one colony...
What seems to be the problem?
The 15 soldiers left to guard the fort. Only this remains, sir.
The nightmare had already begun.
Save your soul before they take it from you.
There is something wrong with this island.
I don't believe in superstitious hokum.
Don't look at me like that. I'm not insane.
Trapped on an island.
Something terrible happened there once.
I have seen horrible, impossible things.
Never gone to the heart of the forest.
I never really believed in pagan legend before.
Let's go back to England.
What exactly is a wraith?
Tortured spirit trapped between this world and the next.
We have to find the source of their power.
And destroy it.
A Viking curse will have its revenge.
It didn't want us dead before. It certainly didn't now.
Fall back to the fort!
Je vous souhaite la bienvenue sur les ondes de Choix Radio X, émission en direct, la troisième de la saison des Radio X Files, et on garde la thématique ce soir des énigmes historiques. Et pour présenter cette émission, l'animateur principal de l'émission, c'est Monsieur Christian Page. Bonsoir Christian.
Bonsoir Camille.
J'espère que t'as passé une belle semaine.
Oh oui, ça s'annonce encore mieux pour le week-end avec la belle température.
Là. Effectivement, on va avoir des derniers relents de l'été ou presque, et c'est un long week-end qui nous attend. Et pour bien le commencer, tu nous amènes ce soir dans la thématique des colonies et des villages disparus en Amérique du Nord. Hein? C'est en deux volets, deux
exact.
Histoires qui se passent, une au Nunavut et la deuxième en Caroline du Nord, ou l'inverse,
ouais,
du moins,
c'est ça.
Au Canada et aux États-Unis, dans l'ordre que tu le souhaites, Christian.
Ouais. En fait, c'est ça. Donc, ce soir, on parle d'énigmes historiques, et parmi les grandes énigmes historiques, j'en ai choisi deux qui reviennent très souvent dans la littérature sur les phénomènes étranges et mystérieux, et principalement lorsqu'il est sous la thématique des disparitions étranges. Notre première de ce soir, et dont on a entendu la bande-annonce d'un film de 2007 qui s'appelle The Lost Colony, The Legend of Roanoke, c'est l'histoire de la légende de la colonie perdue de Roanoke, okay, et qui se passe en Caroline du Nord. Et pour beaucoup, là, quand on regarde dans la littérature, cette histoire-là, c'est considéré comme l'un des plus grands mystères de l'histoire des États-Unis. Et on va essayer de repasser. C'est quand même une histoire qui remonte au 16e siècle, donc il faut quand même se remettre un peu dans le contexte, et on va comprendre qu'effectivement, c'est assez amusant parce que c'est une histoire qui, à l'époque, avait alimenté de la controverse, du mystère. Elle est tombée un peu dans l'oubli pendant à peu près 200 ans, et puis elle a été ressuscitée. Je pense qu'elle a été ressuscitée parce qu'on aime le mystère, hein? C'est-à-dire que quelque part au 19e siècle, des historiens qui se sont penchés sur l'histoire des colonies, de la création des États-Unis, sont tombés sur cette histoire-là.
Okay.
Ils ont commencé à en parler. L'affaire était un peu oubliée quand même à ce moment-là. Et à partir du moment où on évoque un mystère, et qui plus est lorsqu'il est question de disparition mystérieuse, on le sait, on aime bien les histoires de Triangle des Bermudes et tout le reste.
Mm-hmm.
Et cette histoire-là de la colonie perdue, on s'est dit, wow, ça c'est intéressant, et c'est revenu un peu au goût du jour. Et encore aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas un ouvrage qui est publié du côté des États-Unis où on parle des mystères américains sans évoquer éventuellement cette colonie perdue de Roanoke. Et on a eu un peu l'équivalent au Canada, donc on va revenir aussi sur notre histoire canadienne, parce que bon, on n'est pas en reste de nous non plus. La seule chose qu'on n'a pas, puis presque, quand je dis on n'a pas, bon, presque, c'est un Donald Trump.
Ouais. Dans l'histoire plus contemporaine, hein?
Oui, absolument, absolument. Donc, dans cette histoire de la colonie perdue de Roanoke, là, on a entendu en début d'émission cette bande-annonce du film de 2007. Il y a eu deux autres adaptations de cette histoire-là au cinéma. J'ai choisi celle-là parce que, bon, je la trouvais amusante, parce que l'histoire évoquée, c'est la communauté qui est attaquée par des espèces d'esprits qui se manifestent de l'au-delà suite à une malédiction qui a été jetée par des visiteurs vikings. Bon, c'est assez complexe, là, mais bon, les gens sont aux prises avec ces esprits-là et ils en viennent à perdre l'esprit, ils s'entretuent. Bon, il y a plusieurs éléments dans l'histoire. Et c'est une des hypothèses qui sera évoquée pour expliquer cette disparition. Mais commençons d'abord par les faits historiques. On se trouve sur l'île de Roanoke, qui existe encore aujourd'hui, qui se trouve dans le comté de Dare, en Caroline du Nord. Et puis à ce moment-là, d'ailleurs aujourd'hui, on peut toujours visiter l'endroit. Hein. Une partie de l'île est devenue un parc national. Et depuis 1950, on l'a rebaptisé. L'endroit d'ailleurs où la communauté s'est établie, c'est devenu Fort Raleigh. Et donc on peut visiter Sir Billon, on a construit un fort et on a encore les vestiges. Et on se dit, ben voilà, c'est là que cette communauté s'est établie. En fait, c'est une première tentative qui avait été faite. On est aux alentours de 1580 à peu près, et les Britanniques veulent établir des colonies en Amérique du Nord. Et à ce moment-là, on est bien avant la guerre d'indépendance des États-Unis, là, qui va arriver 200 ans plus tard. Ce que les Britanniques veulent faire, c'est de s'installer en Amérique du Nord, et l'Amérique du Nord, à ce moment-là, elle est quand même convoitée par l'Espagne. D'ailleurs, l'Espagne va dominer une grande partie du côté ouest, hein, c'est-à-dire qu'il y était longtemps où la Californie, on a oublié ça, mais la Californie a longtemps été espagnol, hein, avant de passer aux mains des Américains. Donc, les Espagnols vont plutôt conquérir la côte ouest plus tardivement, mais à ce moment-là, donc, au milieu à peu près du 16e siècle, les Espagnols et les Britanniques se bataillent pour obtenir des territoires en Amérique du Nord. Donc, les Britanniques veulent établir une colonie. Et donc, il y a une première tentative qui est faite en 1585. Il y a un certain Walter Waller Raleigh qui va essayer d'établir une communauté. D'ailleurs, quand on dit Fort Raleigh, c'est en son honneur. Donc, il va tenter d'établir une première communauté en 1585. On parle d'une petite communauté, donc des gens qui arrivent d'Angleterre, qui vont s'installer dans le Nouveau Monde. Et ça va être un échec épouvantable. Parce qu'au moment où ils vont essayer de s'installer, il y a des communautés autochtones qui sont là, et ces communautés, il y a une espèce de friction. D'ailleurs, Raleigh va jusqu'à aller assassiner le chef de la communauté autochtone.
Oups.
Parce que, ouais, ça, c'est pas bon, ça. Dans tes négociations, c'est pas très bon, tu sais. Parce que l'idée, lui, ce qu'il veut, c'est, il aimerait qu'on le considère quasiment comme un roi, tu sais, tu comprends-tu? Lui, il arrive de Grande-Bretagne, puis il se dit, ben là, les gens doivent absolument me traiter avec déférence. Puis là, pour lui, comme le seront d'ailleurs la plupart des colons et des conquérants qui vont arriver en Amérique du Nord.
Ben, c'est ce que j'allais dire. On a vécu ça aussi avec les provinces de l'Ouest, outre aussi que les territoires étaient vraiment difficiles à cultiver. On est arrivé un peu, tassez-vous de là, on a tassé le paysage un peu, là.
T'as tout à fait raison. Hein. L'idée, c'est que, tu sais, d'ailleurs, ces gens-là, quand on lit les comptes rendus qu'ils ont faits, ces gens-là, c'est des sauvages. C'est comme ça qu'ils les voient, là, tu sais, là. Donc, des gens qui sont sans foi ni loi, et Raleigh va tenter de les évangéliser. D'ailleurs, il amène avec lui tout son bagage catholique. Il veut imposer ça. Ça va pas bien. Les Autochtones se rebellent, et éventuellement, cette situation-là va dégénérer, et ils vont décider finalement de rentrer en Grande-Bretagne. Donc, c'est une première tentative qui va échouer. Et puis, en 1587, donc, on est deux ans plus tard, il y aura une seconde tentative qui va être faite, et cette fois-là, on va charger un certain John White, qui sera d'ailleurs nommé le gouverneur de la colonie, d'entreprendre à nouveau cette implantation. Et quand je dis implantation, on parle ici d'une île, comme je l'ai mentionné, l'île de Roanoke, qui se trouve dans l'actuelle Caroline du Nord. C'est une île qui est tout près des... C'est une petite île, d'ailleurs, qui est assez proche de la côte. Hein. Il y a comme une espèce d'étang sablonneux. On a une côte qui est un peu fragmentée, comme on en retrouve un peu en Floride. Et avec des longs bancs de sable et comme une espèce de lagune. Donc, l'île de Renault se trouve dans cette fameuse lagune et c'est là qu'on va tenter de s'implanter. C'est un endroit stratégique. On est isolé, donc en même temps, on a une meilleure défense. Mais c'est sûr que sur le continent et sur cette espèce de dune qui forme la fin de la lagune, il y a également des communautés autochtones. Mais cette deuxième tentative, en 1587, réalisée par John White, se passe un peu mieux. Hein. White, disons, il est peut-être plus humble par rapport aux communautés autochtones. Donc, il arrive là. Les autochtones sont quand même déjà un peu échaudés de cette première tentative qu'il y a eu, qui remonte à 2 années plus tôt. Mais cette fois-là, lui, White se montre plus, comme je l'ai mentionné, plus friendly, plus amical. Il va établir des liens avec les communautés. Et ça se passe d'ailleurs plutôt bien. Il y a comme une espèce d'entente. On a des échanges et on s'installe avec une certaine bienveillance et on va installer un village qui est composé, là, selon les comptes rendus, on a entre 112 et 121 colons, qui est composé d'hommes, de femmes et d'enfants. D'ailleurs, parmi ces colons, il y a la fille de John White elle-même, qui d'ailleurs vient justement d'accoucher d'un bébé et donc ils vont s'installer sur place. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils vont défrayer, ils vont d'abord abattre un endroit, ils vont mettre à jour, là, établir un périmètre. Et ils vont construire des petites habitations en rondins. C'est vraiment un village de colons, là, comme on peut l'imaginer. Et White dirige le village. Il y a, comme je l'ai mentionné, sa fille, Eleanor, qui est là, qui vient d'accoucher. Et c'est 120 colons à peu près qui s'installent. Le problème ici, dans cette seconde tentative d'implantation de cette communauté, c'est que ces gens-là sont arrivés beaucoup trop tard dans la saison. Donc, ils arrivent, on est déjà en fin d'été, beaucoup trop tard pour entreprendre des semences et essayer de se lancer dans des projets agricoles. Mmh. Donc, tant et si bien qu'on constate très rapidement, déjà à la fin du mois d'août, là, on constate qu'on va commencer à manquer de vivres. On pourra pas passer tout l'hiver et attendre l'été suivant pour les semences et les récoltes. C'est trop long pour pouvoir espérer survivre jusque-là. Alors, on s'entend dans un premier temps pour obtenir des vivres de la part des communautés autochtones locales. Donc, comme je l'ai dit au départ, ça se passe plutôt bien. Mais John White réalise bientôt qu'il ne pourra pas faire survivre la colonie essentiellement sur des apports comme ça qui proviennent des communautés autochtones des alentours. Donc, il décide de retourner en Angleterre. Il espère pouvoir revenir avant l'hiver et d'apporter avec lui les fameuses denrées qui seront nécessaires pour entretenir la colonie. Donc, il repart pour l'Angleterre. Et c'est un espèce d'adieu momentané, hein, et tout le monde le regarde partir. À ce moment-là, il n'y a aucune crainte. On a suffisamment de vivres pour se rendre jusqu'à l'hiver. Et à ce moment-là, John White devrait être de retour. Donc, on n'a pas de problème. Et puis, tout se passe plutôt bien. Lorsque White arrive en Angleterre, malheureusement, les Anglais et la couronne d'Espagne ont eu des échauffourées dans l'Atlantique Nord et ils se déclarent une guerre navale. Et les autorités, évidemment, la couronne britannique comme la couronne espagnole va réclamer l'ensemble de tous ces bateaux, tous ces efforts pour pouvoir participer à cette guerre navale. Puis il faut quand même le dire, à ce moment, l'Espagne domine fortement sur les mers. Hein. T'as probablement déjà entendu l'expression de l'invincible armada. L'invincible armada, c'est l'armada espagnole. Hein. Ah, donc, okay. C'est les navires qui sont sur les navires espagnols. Donc, tu comprends que de leur côté, les Britanniques ne peuvent pas se permettre de perdre à la fois des navires et perdre des hommes, et ni des vivres. Donc, finalement, tout est lancé dans cet effort de guerre avec l'Espagne. Et ce fameux John White devra attendre 3 ans avant de pouvoir retourner au Nouveau Monde, en Angleterre, en Nouvelle-Angleterre. Ben, Nouvelle-Angleterre, encore ce qui va devenir éventuellement la Caroline du Nord, cette petite colonie établie à Roanoke Island.
Donc, on a laissé des gens avoir faim longtemps.
Ouais, c'est ça. On s'est dit, bon, on sait pas trop ce qui va arriver à ces gens-là, mais bon, fait que donc, on décide de d'y retourner, mais seulement 3 ans plus tard. Donc, lorsque White revient, on est rendu en 1590. Et là, quand il arrive sur place, il découvre que le village a été très transformé. D'abord, dans un premier temps, lorsqu'il arrive au village, il constate que les gens ont érigé des palissades autour de l'agglomération. Alors qu'il se dit, ben voilà, des palissades, c'est probablement que la situation a dû se gangréner, dégénérer, parce qu'une palissade, ça sert à se protéger. Donc, il y a quelque chose qui est arrivé. Et lorsqu'il entre dans le village, il est surpris de voir que les maisons ont été déconstruites. Alors, j'utilise spécifiquement le terme déconstruites. Elles n'ont pas été incendiées, elles n'ont pas été détruites, elles ont été déconstruites. Donc, on a cette palissade à l'extérieur et à l'intérieur, les maisons déconstruites. Sur la palissade, c'est assez étonnant, hein? Quelqu'un a écrit, a gravé dans le bois le mot « Croatoan ». Et sur une souche d'un arbre, à l'intérieur du périmètre du village, on a écrit aussi le mot « cro », simplement « cro », et comme je l'ai mentionné, sur la palissade extérieure, « Croatoan ». Avant de quitter, John White avait dit aux gens de la communauté, si éventuellement il devait y arriver quelque chose, et vous deviez éventuellement vous localiser ailleurs, laissez une note, laissez un mot, laissez quelque chose qui va expliquer vos intentions pour qu'on puisse éventuellement vous retrouver. Hein, parce que, évidemment, on est au moment où White quitte en 1587, 1588, il faut bien comprendre que c'est un long voyage, un long périple retournant en Angleterre et en revenir. Donc, on n'est jamais certain de ce qui pourrait se passer. Est-ce que lui risquait, par exemple, de périr en mer? Son navire aurait pu couler, aurait pu être coulé par des forces étrangères. Hein, c'est la grande époque de la piraterie, des flibustiers et tout le reste. Donc, comme il est incertain, bien sûr, les chances de revenir, lui, au moment où il quitte, ses chances de revenir, il les évalue comme étant très bonnes. Hein, il dit, je vais aller en Angleterre, ramasser des vivres et revenir. Mais évidemment, il y a 1000 embûches qui pourraient se produire. Donc, il dit aux gens, avant de quitter, si vous devez quitter cette petite agglomération, ce petit village qu'on a construit, donner des indications. Alors, tu comprends, lorsqu'il revient, 1590, il voit ce mot écrit sur la palissade, Croatoan, et le mot cro écrit sur un arbre. Il se dit qu'il doit s'agir d'une indication. Il faut quand même dire que au-delà de cette palissade, cette maison déconstruite, il n'y a à l'intérieur du village strictement rien qui laisse croire à quelconque acte de violence. Il n'y a pas eu de saccage, on ne trouve pas de corps, on ne trouve pas aucune marque comme de quoi il y aurait eu une guerre ou quoi que ce soit. Il n'y a que cette palissade qui semble indiquer qu'à un moment donné, les choses ont dû mal tourner. Et finalement, ces maisons déconstruites, qui est assez énigmatique, pourquoi déconstruire les maisons? Est-ce que ces gens-là ont voulu récupérer le bois pour essayer de construire ailleurs? Pourquoi déconstruire les maisons? Parce que dans qui plus est, c'est se donner beaucoup d'ouvrage de déconstruire les maisons, et puis simplement abandonner le village. Comme c'est arrivé, hein, il y a plein de villages qui ont été construits en Amérique du Nord durant cette période, des villages qui ont été éventuellement abandonnés au profit de plus grosses agglomérations. Hein. Par exemple, quand on a construit Boston, il y avait des petits villages autour et beaucoup de ces villages-là ont été abandonnés. Les gens se sont regroupés à Boston, puis bon, les villages sont restés abandonnés puis sont retournés à la nature. Donc, on s'est pas donné la peine de détruire le village. Et puis, c'est encore le cas aujourd'hui. On détruit pas des villes. Hein. On regarde des villes minières dans les années 40 ou les années 50 qui ont été abandonnées quand les mines ont fermé. Ben, ces villages-là, on peut les visiter encore aujourd'hui. Hein. Ce sont des villages fantômes. Hein. On pense à Val-Jalbert ou des trucs comme ça. Ce sont devenus des villages fantômes, même dans certains cas, c'est devenu des attraits touristiques, mais on ne déconstruit pas le village. Donc, dans le cas ici de Renault, okay, il y a quelque chose de bizarre. Et c'est ce fameux mot Croatoan, ça fait référence à une île. On suppose, hein, c'est ce que John White va dire. Ben, il y a une île qui est un peu plus au sud, qui est une île très sablonneuse. Hein. Comme je t'ai mentionné, il faut s'imaginer cette fameuse lagune. On a ce banc de sable qui forme une espèce de lido le long de la mer. Ensuite, cette lagune intérieure où se trouve l'île de Roanoke et ensuite le continent lui-même. Et au sud de l'île de Roanoke, il y a cette île qui s'appelle l'île Croatoan. Puis, on dit qu'il y a une communauté, les Croatans, qui sont les autochtones qui vivent sur l'île, mais ce sont surtout une communauté autochtone qui s'appelle les Houtanes. Donc, il se dit peut-être que les gens ont, comme on le sait, on a quitté l'endroit parce que ces gens-là, on avait déjà anticipé éventuellement le manque de vivres. On s'est dit peut-être que ces gens-là ont attendu en vain que la nourriture arrive d'Angleterre. Elle n'est pas arrivée. Et là, ces gens-là ont dû faire face à à la famine, et probablement qu'ils ont décidé de quitter les lieux, et le mot qu'ils ont laissé, c'est Croatan, donc se rendre plus au sud pour aller rejoindre ces autochtones Terras, pour essayer de se fondre à eux et obtenir de leur aide. D'ailleurs, il y avait entre, au moment où John White a quitté le continent, il y avait d'ailleurs une bonne entente entre les colons et cette communauté d'autochtones. Donc, c'était un choix qui était, semble-t-il, vraisemblable. Mais John White ne pourra jamais vérifier son hypothèse parce que éventuellement il va faire c'est à la fois le gouverneur de la communauté, hein, c'est lui qu'on a nommé comme le gouverneur de la communauté, c'est aussi un artiste et un cartographe, donc il va s'occuper à faire quelques cartes de cette région-là des États-Unis qui sont encore aujourd'hui considérées comme parmi les meilleures premières cartes de l'Amérique du Nord qui ont été dessinées. Mais éventuellement il doit retourner en Angleterre, donc il n'aura pas la possibilité de se rendre jusque dans l'île Croydon pour voir si la communauté qu'il avait installée à Roanoke, s'il y a eu des survivants, et si ces survivants-là ont bel et bien rejoint les communautés autochtones de l'île de Croydon, il ne pourra pas le vérifier.
Donc, on ne sait pas si personne va bien, en fait.
Non, c'est ça, on ne sait pas ce qui est. Donc, il rentre en Angleterre et ça reste un peu mystérieux. Il dit, ben voilà, quand je suis arrivé, on avait déconstruit l'intérieur des maisons et à l'extérieur, il y avait ces palissades, ce mot qui était laissé. Et puis, éventuellement, l'affaire est un peu oubliée. Il y a des gens qui vont retourner. Là, on est rendu à peu près un siècle plus tard. Il y a des gens qui vont retourner, vont commencer à s'intéresser qu'est-il advenu de ces gens-là. Et puis, peu à peu, l'affaire va tomber dans l'oubli. On n'aura jamais de nouvelles de ce qui est advenu de ces gens-là. Toute la communauté semble s'être volatilisée et les quelques hypothèses qu'on a proposées à l'époque, notamment par John White, on n'a pas pu les vérifier. Et donc, il faut attendre le 19e siècle, 20e siècle, pour que des gens commencent de nouveau à s'intéresser à cette communauté qui vivait là et qui a disparu finalement. Et d'ailleurs, hein, pour montrer le point que c'est qui est important, à quel point cette communauté-là est devenue importante, aujourd'hui, l'endroit où se trouve l'île de Roanoke, elle se trouve dans un comté qu'on appelle le comté de Dare. Or, la fille de John White s'appelait Eleanor White Dare. Donc, le comté est en raison de son nom. Et éventuellement, le président Roosevelt, dans les années 50, va déclarer la fille qui est née de Eleanor White, Virginia, il va la nommer comme étant le premier enfant anglais occidental né en Amérique du Nord.
Ah, OK.
Donc, tu vois, donc c'est un peu c'est pas n'importe quoi là, quand même. Donc le premier enfant de colons qui serait né aux États-Unis, c'est la fille de John White qui a été abandonnée dans cette communauté de Roanoke. Donc à partir du fin du 19e siècle, début du 20e, il y a cet intérêt pour le mystère, le mystérieux, on se met à s'interroger sur cette disparition étrange qui est survenue dans la communauté et on veut savoir ce qui s'est passé. Et là, il y a plusieurs hypothèses qui vont être proposées et encore aujourd'hui en ces hypothèses sont débattues entre les historiens et les archéologues. Faut dire que ceux qui nous écoutent ce soir, vous n'aurez pas la réponse absolue parce qu'on ne l'a pas cette réponse-là. On n'a que des hypothèses, certaines plus vraisemblables que d'autres. La première hypothèse qui a été proposée, c'est que les gens étaient assassinés par les Autochtones. Mais si c'était... Et ce qui explique un peu la construction des palissades à l'extérieur de la ville, mais si c'était le cas, évidemment, dans toutes ces hypothèses, on a des sérieux talons d'Achille. Si c'était l'hypothèse de base, ils ont été assassinés par les Autochtones, pourquoi avoir écrit sur les palissades, sur la palissade, le mot Croatan? Pourquoi l'avoir écrit également, ou avoir écrit les trois premières lettres sur une souche d'arbre à l'intérieur du village? À quoi ça rime d'avoir mis cette information-là? Ensuite, comme je l'ai mentionné, dans le village, il n'y a aucune trace de violence. On n'a pas trouvé de corps. Lorsque John White revient en 1590, ça fait déjà 2 ans et demi à peu près qu'il a quitté l'endroit, il voit que ça fait quand même un petit bout de temps que le village a été abandonné. Mais quand même, on aurait dû trouver des marques de violence s'il y avait vraiment eu un assaut lancé par les autochtones locaux, ce qu'on trouve pas.
Je dirais même qu'on aurait retrouvé peut-être un survivant, à la limite, ou quelqu'un qui se serait caché.
Oui, peut-être. Et aussi, dans cette hypothèse des Autochtones qui attaquent le village, il y a cette déconstruction du village. Et ça, ça pose un problème, parce que généralement, on aurait pu s'attendre que les Autochtones auraient pu simplement revendiquer le territoire et s'installer là où se trouvait cette communauté.
Ouais.
C'est ce qu'ils n'ont pas fait. On a, non seulement on ne l'a pas fait, mais on a visiblement déconstruit les maisons. Donc, ça reste un peu un mystère. À l'époque, la deuxième hypothèse, on se dit, OK, supposons qu'ils n'ont pas été attaqués par les Autochtones, est-ce qu'ils auraient pu être attaqués par les Espagnols? On le sait, c'était une période qui était excessivement troublée entre la couronne britannique et la couronne espagnole. On revendiquait des terres. D'ailleurs, on le sait, l'Espagne va principalement occuper tous les territoires des Antilles. Hein? Cuba, l'île d'Hispaniola, qui est aujourd'hui l'île où se trouve la République dominicaine et Haïti. Donc, toute cette région-là du monde, et le Mexique, bien sûr, a été conquis par les Espagnols. Donc, on se dit, il y a un bras de fer qui se joue entre les Britanniques et les Espagnols. Est-ce qu'éventuellement cette communauté anglaise installée sur ce qui est aujourd'hui la Caroline du Nord aurait pu être décimée par des visiteurs espagnols? Mais encore une fois, c'est un peu les mêmes éléments qui reviennent. Pourquoi ce message Croughton écrit sur la palissade? Pourquoi n'y a-t-il pas de marque ou de traces de violence à l'intérieur du village? Et pourquoi avoir déconstruit les maisons? Donc, on n'est pas plus avancé, même si on évoque les Espagnols. L'autre idée, c'est que les colons aurait effectivement, parce que John White n'a pas pu le vérifier, mais peut-être que son hypothèse de base était bonne, peut-être que ces gens-là ont souffert de la famine et éventuellement ont quitté Croughton, ont quitté, c'est-à-dire Renoke, pour se rendre sur l'île de Croughton, plus au sud, où ils se sont éventuellement mêlés aux Autochtones et Terrace. C'est possible, mais on a plutôt des problèmes sur le plan démographique et le problème de la surpopulation. Parce qu'il faut savoir que cette communauté autochtone qui vivait sur l'île de Croughton, c'était une petite communauté et l'île elle-même est une espèce de petite île sablonneuse qui n'est pas très propice à l'agriculture. Donc, cette île-là et cette communauté locale auraient eu de la difficulté à accueillir 120 colons et pouvoir fournir de la nourriture et un gîte à tous ces gens-là. Donc, ça aurait été très, très problématique. Ça aurait créé des tensions, tu comprends? Parce que si tu te retrouves dans une communauté où il y a surpopulation, c'est le principe même de l'étranger, hein, on va accuser l'étranger d'être la cause des problèmes, puis éventuellement ça serait terminé avec un véritable carnage. Donc il y a cette possibilité qu'il se soit rendu là, et ça a peut-être fini par un carnage, mais il faut savoir que des fouilles archéologiques ont été menées sur l'île qui est encore occupé par des communautés autochtones. Et en faisant des travaux, on a trouvé, effectivement, parce que, là, encore une fois, si t'as les gens qui disent « Moi, c'est l'hypothèse que je favorise », hein, parce que souvent, on est à la recherche d'un biais de confirmation. Donc, des gens, j'ai lu quelques ouvrages écrits par des historiens qui disent « c'est probablement l'hypothèse la plus vraisemblable ». Des travaux archéologiques ont mis à jour des vestiges petits, là, entendons-nous, 3-4 morceaux de poterie, le manche d'un épée, qui semblent provenir, qui sont clairement de culture occidentale du 16e siècle. Alors on se dit, on a notre preuve. C'est pas aussi évident que ça. D'abord, ce nombre d'artefacts qui ont été trouvés sur cette petite île de Croughton est relativement faible. Ça ne correspond pas à une occupation importante de 100 ou 120 colons. Donc on a déjà ce problème-là. Et il faut dire que ces artefacts-là n'ont pas été trouvés seuls. En fouillant sur l'île, les travaux archéologiques ont mis à jour, bien sûr, ces vestiges ou ces éléments archéologiques du 16e. Du 16e siècle, mais on en a trouvé aussi du 17e et du 18e siècle.
Okay.
Donc, la seule chose que ça montre, c'est que des gens, des voyageurs, sur une longue période de temps, ont passé par cette île de Croughton, ont échangé avec les Autochtones locaux, mais il n'y a rien de définitif qui permet de dire, c'est là que la communauté de Renoke est allée s'installer. On n'a pas cet élément-là. Et ensuite, certains ont raconté, on a des récits de gens qui disent, les Autochtones qui vivaient sur l'île. Certains d'entre eux avaient les cheveux blonds, avaient les yeux bleus, mais malheureusement, on n'est pas en mesure de déterminer ça. Même certains ont dit, on a vu des autochtones qui pratiquaient le christianisme. Mais ouais, mais il faut savoir que dès qu'il y a eu une percée en Amérique du Nord, soit par l'Espagne, par le Sud, ou soit par les Anglais, par le Nord, très rapidement, il y a eu des tentatives d'évangélisation. Donc après quelques années, quelques décennies après la tentative de Roanoke, il y avait des communautés autochtones qui s'étaient converties et qui pratiquaient le christianisme. Donc en soi, ça reste des rumeurs intéressantes. Puis bien sûr, il y a eu ces mixages qui se sont produits assez rapidement dans les échanges de cultures. Donc c'est pas très déterminant de dire voilà, il y a ces gens-là sont allés sur l'île de Croydon et se sont mêlés avec les communautés autochtones. Puis il faut savoir aussi que en 2012, il y a eu des travaux qui ont été menés, en commençant en 2005, ça s'est poursuivi jusqu'en 2012, où on a fait des tests ADN sur les communautés autochtones qui vivaient dans la région. Et beaucoup d'entre eux, effectivement, ont des gènes européens. Mais encore une fois, il y a eu un tel mixage entre les communautés autochtones d'Amérique du Nord et les Européens qui sont arrivés sur le continent, que tu peux pas déterminer si ces gens-là, leur arrière-grand-parents étaient des colons de la communauté de Roanoke.
C'est ça, on pourrait se prêter au même exercice. On aurait probablement des pourcentages là, bien, bien aiguisés aussi de plusieurs cultures. Là.
Ah, absolument. Donc, ces travaux-là sont intéressants, mais en soi, il n'apporte pas une réponse définitive. L'autre possibilité, et ça c'est plus intéressant parce que ça nous amène un peu dans un genre de mystère par l'intérieur du mystère. Déjà, on ne sait pas trop ce qui est advenu à la communauté. Comme je l'ai mentionné, ce fameux John White, qui avait été nommé, qui était à l'origine de cette deuxième tentative d'implantation, qui a dû retourner en Angleterre, qui est revenu. Comme je l'ai mentionné, c'est un artiste, un cartographe aussi. Or, on sait qu'il a fait des cartes de la région avant d'être obligé de retourner en Angleterre et ce qui lui empêchait de vérifier son hypothèse que les gens de la communauté s'étaient rendus plus au sud. Mais éventuellement, ces cartes, elles existent encore et elles sont conservées dans les archives nationales britanniques. Et éventuellement, en 2012, en fouillant dans les cartes, on a trouvé une des cartes qui avait été faite par John White et on a constaté, il a dessiné toute la côte jusqu'à la baie de Chesapeake et sur sa carte, bon, évidemment, les contours un peu des rivages ont changé parce qu'il y a eu l'expansion, les villes, etc. Mais quand on regarde, on constate que c'est assez semblable à ce que c'était à l'époque. Les grandes lignes sont demeurées là. Et là, en regardant de plus près la carte, on a constaté que quelque part, là, à la jonction de la rivière Chowan et la baie d'Abelmer, si les gens savent un peu où ce qu'on se trouve, là. Il y a, à cet endroit-là, on a constaté que sur la carte de White, il y avait une patch, un ajout qui avait été collé sur la carte.
Ah, oh, OK.
Et c'était ça,
amusant. Un bricolage.
Ouais, mais en soi, ça peut nous paraître un peu étrange, mais il faut savoir que à l'époque, si on faisait des cartes, que c'était ou bien sur des pots ou sur du papier, c'était quand même des denrées qui étaient coûteuses, dispendieuses, difficiles à se procurer. Donc, quand on commettait une erreur ou si la carte était endommagée, ben on faisait simplement comme on le fait avec des vieux vêtements, on va mettre une patch, puis merci, bonsoir, puis on continue. Et c'est un peu ce qu'on retrouve sur des cartes anciennes. Donc, des cartes ont été abîmées. On a simplement mis une pièce par-dessus pour rapiécer. On s'est dit, ben voilà, on a réparé la carte. Mais on a quand même trouvé ça curieux en regardant la carte de White qu'à l'endroit où à peu près se trouvait un peu... on est un peu à l'est, à l'ouest de là où se trouvait la communauté de Roanoke, qu'on retrouve justement cette pièce qui a été rajoutée sur la carte. Donc, en 2012, les scientifiques ont décidé de la passer au rayon X. Et là, en passant la carte au rayon X, on constate qu'à cet endroit-là, exactement, là, comme je l'ai mentionné à l'intersection de la baie d'Abermale et la rivière Chowan, il y a sous la patch, il y avait quelque chose que John White a essayé de dissimuler.
Ah ben.
Et ce qu'il a essayé de dissimuler, c'est un petit dessin qui ressemble à un disons, à un carré dont les pointes sont étirées. Un peu l'image que l'on se fait si on regarde une carte et on voit le pictogramme d'un phare. Hein, quand on regarde, par exemple, quand tu vois des cartes avec des phares, ben, ça ressemble un peu à un carré, puis les pointes sont étirées.
Okay.
Or, c'est exactement ce que l'on voit là, donc le pictogramme d'un phare. Et on dirait que John White a essayé de le dissimuler sous une patch. Et là, évidemment, on s'est posé toutes sortes de questions. Pourquoi avoir fait ça? On voit bien qu'il a voulu dissimuler. C'est clairement une œuvre de dissimulation. Il n'a pas voulu réparer la carte. Elle n'est pas abîmée à cet endroit-là. C'est simplement de dissimuler la présence de ce petit carré. Alors, mais qu'est-ce que c'était? Pourquoi avoir dissimulé ça? Est-ce que c'était vraiment un phare? Un phare, j'entends F-O-R-T, là, pas un phare, mais un phare. Est-ce qu'il y a eu un phare qui a été construit là? Et si un phare a été construit là, pourquoi est-ce que John White a essayé de le dissimuler dans sa carte? Pourquoi a-t-il placé une pièce pour cacher le pictogramme de ce phare-là? Et qui aurait pu construire un phare à cet endroit-là? On est là à quelques dizaines de kilomètres de la communauté de Renoke. Est-ce que quelque part, John White a appris que la communauté s'était déplacée à l'intérieur des terres, s'était établie, et pour des raisons connues de lui seul, il a voulu garder le secret sur cette histoire-là? Malheureusement, on ne le saura jamais, hein, parce que, bon, la pièce a été placée par-dessus, ce n'est qu'en 2012 qu'on a découvert ça, et aujourd'hui, ben évidemment, tu peux pas... Il y a des recherches archéologiques qui ont été menées à cet endroit-là, là, depuis la découverte de ce petit pictogramme sur la carte de White. On a mené des recherches archéologiques. On a trouvé, bien sûr, des vestiges qui nous indiquent la présence d'une communauté européenne. Puis quand je dis communauté, encore une fois, faut pas trop forcer sur le mot. On a trouvé des poteries, des objets qui montrent que des Européens ont séjourné à cet endroit-là.
Mais on sait pas combien, c'est ça.
On sait pas combien, on sait pas à quel moment, parce que c'est très difficile de documenter de la poterie, hein. À moins qu'il y ait des types de peintures, de types de porcelaine utilisées ou des types d'enduits sur la porcelaine. Mais si on est essentiellement en termes de poterie qui ont été faits avec de la glaise locale, c'est difficile de savoir si celui qui a tourné la pièce de poterie était un individu de 1580 ou de 1625. Tu comprends? On peut pas déterminer ça. On a des poteries. On voit bien que l'artisanat est propre à de l'artisanat européen. Mais ça ne nous apprend pas grand-chose. L'énigme ici, c'est de se dire, mais pourquoi est-ce que John White a-t-il voulu dissimuler cet endroit-là très précisément sur sa carte? Il faut dire aussi que les travaux archéologiques qui ont été menés sur place après cette découverte en 2012 n'ont pas permis de retrouver les vestiges d'une quelconque construction fortifiée. Parce que le dessin de White fait définitivement penser à une fortification, à un phare, mais on n'a pas trouvé ça sur place. On a trouvé quelques poteries, quelques vestiges qui montrent que des Européens auraient peut-être séjourné à cet endroit-là, mais rien qui permet de croire qu'on ait érigé à cet endroit-là un endroit fortifié. Donc ça, on n'a pas ça. Ça reste un peu un mystère. Et puis enfin, je dirais la dernière hypothèse qui, depuis quelques années, est devenue un peu à la mode, ben, c'est celle qui est véhiculée à la fois dans l'extrait du film qu'on a entendu tantôt, un film de 2007, et qu'on retrouve également dans la littérature sur le surnaturel. Et là, ça fait intervenir ou bien les gens ont été enlevés par des extraterrestres de manière massive. Okay. Je me rappelle, il y a un auteur britannique qui a écrit un ouvrage dont le titre, c'est assez amusant, je l'ai traduit en français, c'était « Dans le doute, accuser les extraterrestres ». Ça, c'est le titre. Hein? Et c'est ça. Donc, c'est un historien, physicien, qui fait remarquer qu'à toutes les fois où on est confronté à une énigme, ben, très rapidement, t'es sûr que des gens vont la récupérer puis vont mettre ça sur le dos des extraterrestres. Il y a quelque chose qui se passe, on sait pas comment ça marche, alors c'est sûr que c'est extraterrestre.
Notre cerveau a horreur du vide, hein?
Oui, c'est ça. Donc, les extraterrestres. Donc, c'est les gens, disons de façon plus récente, parce que les ovnis, ça devient un peu un folklore à partir des années 50, un folklore assez moderne. Donc, à partir des années 50, les gens se sont intéressés à nouveau à la disparition de cette communauté de Renoke, on dit, ben voilà, c'est peut-être un enlèvement massif par des extraterrestres. extraterrestre. On a parlé également de d'une espèce de contamination de zombies. Hein. Les gens auraient été atteints comme ils étaient sur une île, donc isolés. Ils auraient été atteints d'une sorte de virus. Ils se seraient donné au cannibalisme. Ouais. Ils seraient cannibalisés entre eux. Et ceux, tu sais, un peu comme une maladie, comme la rage, par exemple, tu perds la raison, tu t'attaques à tes voisins, puis ensuite, ben, la maladie va t'emporter. Mais encore une fois, cette hypothèse-là tient pas. Bon, les extraterrestres, je ne sais pas. Faudrait aller voir, demander à Raël de nous emmener sur la planète des extraterrestres pour voir si la communauté est rendue là. Mais en dehors de ça, comme j'ai pas visité les extraterrestres, je peux pas me prononcer si les gens ont été enlevés par des extraterrestres. Une chose est certaine, l'idée des cannibales, là, parce que cette idée-là a été évoquée, les zombies, et on a aussi parlé d'un syndrome un peu à la Wendigo. Donc, les gens étaient en une espèce de folie psychotique où on a déliré, on a cru être un peu hanté ou possédé par des esprits, et puis, bon, les gens se seraient entretués entre eux. Encore une fois, ça fait beau pour la littérature, ça fait des bons films, mais sur le fait historique, rien retrouvé dans la communauté ne permet d'étayer ces hypothèses-là. On n'a pas d'éléments là-dessus. Comme je l'ai mentionné, on n'a pas de traces de violence, on n'a pas trouvé de corps. Rien de ça qui permet d'étayer l'une ou l'autre de ces hypothèses. Dans le cas de l'histoire des ovnis, c'est assez étonnant parce que ce petit pictogramme qui ressemblait à un phare que John White a essayé de dissimuler en mettant une espèce de patch par-dessus, ben, crois-le ou non, les gens qui croient aux ovnis, hein, les adeptes de l'hypothèse des ovnis, on dit, ah, c'est ce photogramme-là, oui, c'est ça, ça décrit pas un phare, un phare plutôt, le F-O-R-T, ça décrit pas un phare, ça représente un ovni. Et John White essayait de le dissimuler en mettant une patch par-dessus parce qu'il savait que des extraterrestres étaient, bon, c'est un peu fantaisiste, pourquoi simplement pas mentionner ça dans un registre ou quoi que ce soit, et pourquoi aussi ça nous explique pas le mot Crichton écrit sur la palissade de la communauté.
Non, c'est ça, on revient à la base. Et comme tu as dit, tout secret se monétise bien, puis je pense que même à cette époque-là, découvrir les extraterrestres, ça aurait été gros, là.
Oh, ça aurait été gros. Donc, écoute, je te raconte ça, puis je vois ici dans ma note que j'ai pris à propos de l'hypothèse extraterrestre, je me suis mis une petite note au côté, c'est marqué « Heureusement que le ridicule ne tue pas ».
Ben oui, j'espère.
Parce que c'est ça, un peu, là, quand t'es rendu, que tu parles du syndrome du Wendigo qui atteint toute une communauté, un syndrome de zombies, ou des enlèvements extraterrestres de masse, bah, ça devient un peu fantaisiste. Fait qu'enfin, donc, on ne le sait pas vraiment, ça reste encore une énigme. Qu'est-il advenu de la communauté de Roanoke? On a plusieurs hypothèses, certaines plus vraisemblables, appuyées par certains items archéologiques, mais aucune solution définitive. Et bien sûr, au Canada, on a eu aussi une situation semblable, une communauté qui a disparu. Et ça, si tu veux, je t'en parle après la pause.
This is not a test. Radio X Files. Avec Christian Page et Camille.
Radio X.
De retour en direct à Choix Radio X. Ce soir, l'émission porte sur les colonies et les villages disparus. Et mon cher Christian, je te laisse poursuivre là où on était avant la pause, c'est-à-dire ce qui s'est passé pour nous au Canada dans une colonie autochtone.
Oui, effectivement, je t'amène dans ce qui était autrefois les territoires du Nord-Ouest, mais la partie Est de ces territoires, qui aujourd'hui s'appelle le Nunavut. On est à peu près à 800 kilomètres au nord de Churchill, au Manitoba. Churchill est une petite ville sur les bords de la baie d'Hudson. Donc, on est vraiment là, dans un endroit très, très isolé. On est au nord. C'est un grand lac, d'ailleurs, le lac Abukini, d'Angikuni. C'est un très grand lac. Et donc, le 29 novembre 1930, les Canadiens d'un océan à l'autre, sont surpris d'abord par un article paru dans le Halifax Herald, mais qui est reproduit dans presque tous les grands médias canadiens. Et grosso modo, le titre est « La tribu disparue des territoires du Nord, le village de la mort découvert par le trappeur Joe Lebel ». Et l'article est signé par un correspondant manitobain qui s'appelle Emmett Keller. Et l'histoire, hein, lui, ce qu'il nous raconte, c'est le compte-rendu de ce fameux Joe LaBelle qui a découvert ce village-là, un village d'Esquimaux hein, qu'on nous mentionne. Il y a un village qui était composé à peu près de 25 hommes, femmes et enfants et qui aurait disparu dans des conditions étranges. Donc, le récit, parce que l'article, c'est à peu près essentiellement le récit de Joe LaBelle, il raconte, bon, lui, c'est un trappeur, il fait le commerce des peaux. Et il lui arrive régulièrement de passer par cette région-là pour aller faire commerce avec les communautés locales qu'il ramène. Et il fait du trafic avec du commerce avec la baie du Tson, la compagnie de la baie du Tson, des trucs comme ça. Donc, lorsque LaBelle arrive à ce village d'Angekuni, il arrive, il écrit, ou à tout le moins il explique aux journalistes qu'il est un, qu'au moment où il arrive là, le village où il était déjà passé quelques années plus tôt, où il y avait une petite communauté, il dit, lorsqu'il est arrivé là, le village était absolument désert. Il parle qu'il y a 6 ou 7 grands tipis qui sont composés, qui sont faits de peau de caribou. Ces tipis sont intacts. Il dit être pénétré à l'intérieur des fameux tipis. Ce qui l'a frappé, c'est que tout était resté sur place. Il y avait de la vaisselle, des ustensiles, des vêtements chauds, hein, des parkas, okay, des trucs comme ça. Et il trouve également, à un moment donné, il disait, j'ai déplacé une couverture, il y avait une carabine, et la carabine commençait déjà à rouiller. Donc, ce qui semble dire d'un premier temps que ça fait un petit bout de temps que le village a été abandonné, mais qui plus est, abandonné de manière assez étonnante, parce que les Esquimaux n'auraient pas quitté l'endroit sans apporter des effets personnels, des vêtements chauds, et qui plus est, une carabine, qui est un instrument important, là, si tu veux chasser, puis c'est un peu, ta survie dépend un peu de ça. Donc, la carabine a été laissé là. Il dit, dans le village, il n'y avait aucune marque de violence. Ce qui l'a frappé, toutefois, il dit, j'ai trouvé, il y avait un groupe de chiens, 7 ou 8 chiens. Il y en avait 2 d'entre eux qui étaient encore vivants, mais qui n'avaient que la peau et les os, qui étaient attachés, qui étaient affamés. Et les autres, il y en avait un autre, c'est un autre groupe, 5, 6 autres chiens, qui eux étaient morts et avaient été dévorés par les 2 vivants pour se maintenir en vie. Donc, il dit, il y avait ces chiens-là. Et en se promenant dans le village, la chose qui l'a le plus étonné, c'est qu'il y avait une tombe, hein, les Esquimaux, les autochtones de ces régions-là, comme le sol est très très gelé, ce qu'on fait des tombes assez sommaires et on marque l'endroit par des monticules de pierre qu'on appelle des cairns. Et là, il dit, il y avait un cairn et quand je me suis approché du cairn qui était visiblement la marque d'une tombe, je me suis aperçu que la terre autour du cairn avait été bougée et la tombe avait été littéralement ouverte. Il n'y avait personne dans la tombe. Donc, on a comme déterré le corps qui était là. Et évidemment, ça ajoute au mystère. Un village abandonné, des effets personnels. Et LaBelle dit, j'avais l'impression que ces gens-là avaient quitté le village comme c'était, je vais revenir bientôt. Mais visiblement, les conditions du village semblaient indiquer que cet endroit-là était abandonné depuis un certain temps. Donc, LaBelle raconte également qu'il en a informé la GRC. La GRC, à l'époque, qui s'appelait pas la GRC, mais ça s'appelait la Northwest Police, Mounted Police, la police des territoires du Nord-Ouest. Donc, il dit, j'en ai informé les policiers qui, avec des trappeurs, sont retournés dans le village, auraient constaté ce que lui, LaBelle, rapportait, et on n'a pas trouvé d'explication. On s'est informé auprès des communautés autochtones autour, et absolument rien, aucun groupe autochtone, a été en mesure de donner des informations sur les gens de ce village disparu. Et cette histoire-là, éventuellement, elle va rebondir à quelques reprises dans la littérature, parce que c'est quand même étrange. En 1959, par exemple, on a un journaliste américain qui s'appelle Frank Edwards, qui est bien connu des amateurs de mystère. Il a écrit notamment un livre sur les soucoupes volantes qui s'intitulait « Soucoupes volantes, affaires sérieuses ». Il animait une émission de radio où il parlait de mystère et principalement de soucoupes volantes dans les années 60. C'était très populaire.
Ça me dit quelque chose, ce type d'émission.
Ouais, et il a écrit plusieurs ouvrages et l'un d'entre eux s'appelait « Stranger than Science », en plus étrange que la science. Et dans un chapitre qui l'intitule « The Vanishing Village », hein, le village disparu, il écrit que des recherches intensives n'ont pas permis de comprendre ce qui s'était produit, et encore une fois qu'il rapporte que les tribus aux alentours, les autres groupes esquimaux, les communautés esquimaux locales n'ont jamais entendu parler de la disparition de ces gens-là. On ne sait pas ce qui leur est advenu et ils ont manifesté leur étonnement en apprenant que la communauté de Angekuni avait disparu. C'est une histoire assez incroyable, mais elle est fausse.
Ah, c'est une fraude!
Absolument. Tout ça est une pure invention. Hein? Et ce qui est un peu étonnant là-dedans, et tu vas le voir, hein, déjà là, très rapidement, là, 6 semaines après que cet article-là, publié dans le Herald, Halifax Herald, ait été publié et reproduit à l'échelle canadienne, évidemment, des gens sont adressés à la police, à la Northwestern Police, ont dit, ben, c'est quoi cette histoire-là? Et immédiatement, eux ont mené une enquête. Et là, on était dans les jours, les semaines qui ont suivi la publication de l'article, et éventuellement, le 17 janvier 1931, donc on est moins de 2 mois, là, on est 7 semaines après la publication du Halifax Herald, le commissaire Cortland Stern de la GRC, ou ce qui va devenir la GRC, la Northwestern Police, publie le rapport d'un constable, Nielsen, qui lui dirige le département de The Pass, qui couvre le territoire où se trouve justement le lac Agoukini. Et il publie le rapport de son investigation, et là on en apprend des choses, des vertes et des pas mûres. Hein. Et il nous dit, ben voilà, je suis allé, le constable Nielsen, qui avait été chargé de mener l'enquête sur ça, dit, ce village-là n'existe pas, jamais existé. Donc, il s'est rendu sur place. Il n'y a pas de village autochtone ou esquimau qui était sur place. Il a découvert d'ailleurs que les photos qui accompagnait l'article de Emmett Kelleher n'étaient pas des photos, parce que bon, quand on lisait l'article, il y avait comme un tipi abandonné, puis des chiens esquimaux, là. Ben, toutes ces photos-là ne montrent pas cette soi-disant village disparu, mais c'est simplement des photos qui ont été prises par un militaire qui s'était installé à Fort Churchill à cette époque, un certain Paul Rose, et Paul Rose a raconté aux policiers que quelques semaines plus tôt, ce fameux Emmett Kelleher était venu à Fort Churchill et avait dit à Rose qu'il avait l'intention d'écrire un article sur les Esquimaux du Grand Nord et qu'il cherchait des photographies d'Esquimaux. Et Rose, qui était photographe amateur, a dit, ah ben moi j'en ai toute une collection de photos de communautés Esquimaux autochtones, locales, que j'ai dans un livre. Et donc, en feuilletant ces images-là, Kelleher a trouvé une coupe de photos. Il s'est dit, ah, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Il a pris ces photos-là et là, en promettant à Rose d'utiliser ces photos pour écrire un article sur les Esquimaux du Grand Nord. Et donc, après quelques semaines, Rose dit, ben moi, j'ai reçu à nouveau les négatifs qui m'ont été retournés. Et évidemment, à ce moment-là, je me suis jamais douté que le fameux Kelleher utiliserait ces photos-là pour inventer une histoire sans qu'une tête, qui était cette histoire d'Esquimaux disparus. Toute cette histoire-là est une pure invention imaginée par ce journaliste finalement peu consensueux qui était Emmett Kelleher et qui a inventé entièrement cette histoire-là, visiblement pour susciter un intérêt d'un média et tirer des sous, et son histoire est passée un peu dans le folklore populaire. Et ce qui est assez étonnant, pourquoi je voulais te parler de cette histoire-là? Parce que ça revient souvent à ce qu'on retrouve dans l'univers du paranormal. On sait déjà, là, 7 semaines après la publication originale de cette histoire-là, on savait que c'était une fraude. Le rapport des policiers de la Northwest Mounted Police était assez clair. On savait d'où venaient les photos, on savait qui avait écrit et pourquoi il avait écrit, comment l'histoire s'était répandue. Donc, on aurait pu croire que si cette histoire-là, c'était « merci, bonsoir, on passe à autre chose ». Mais pas dans l'univers du paranormal. Dans l'univers du paranormal, il y a quelque chose d'assez étonnant qu'on appelle, tu sais, moi j'ai tendance à appeler, on dit souvent, il y a une mémoire collective. Moi j'ai tendance à dire, dans l'univers du paranormal, on a un oubli collectif.
Ouais, l'inverse, hein.
Et l'oubli collectif, c'est que, on se dit, bon, OK, on a une réponse, on va laisser passer du temps, la poussière va retomber, puis dans quelques années, les gens s'en rappelleront pas, puis on va pouvoir la ressortir. Tu serais étonné de voir dans l'univers du paranormal aujourd'hui des histoires qui circulent et qui ont été expliquées il y a 20, 30, 40 ans, où il y a eu des aveux de comment le trucage a été... On dirait qu'on oublie ça.
Mais
puis on attend un temps, puis on la ressort. Tu sais, on a une deuxième vie, une nouvelle génération. Donc, combien de gens aujourd'hui qui nous écoutent, une jeune génération d'auditeurs qui nous écoutent, qui vont peut-être tomber demain sur des livres, les grands mystères canadiens, et qui vont trouver un chapitre sur le village disparu d'Agoukini, puis on lui dira pas que cette histoire-là a quand même été complètement déboulonnée par la GRC. Et même si aujourd'hui, les gens qui nous écoutent adressent une lettre à la GRC sur cette histoire du village disparu, disparu de la Gikuni, ils vont recevoir une lettre circulaire qui a été préparée par la GRC et qui explique comment cette histoire-là a été inventée par Kelleher. Donc, on a déjà une lettre-réponse toute faite.
Ah,
pour,
ouais.
Ouais, parce qu'il y a tellement de gens, encore aujourd'hui, malgré les l'explication proposée à l'époque, l'histoire continue tellement de circuler, elle est tellement repiquée dans des ouvrages et des publications peu soucieuses de la qualité de l'information, de raconter cette histoire-là, que chaque année, la GRC reçoit des dizaines de demandes d'informations sur la disparition du village d'Agoukouni, qui ne s'est jamais produite. C'est une pure invention journalistique.
En même temps, je me dis, ce stratagème-là va finir un jour, parce qu'on est dans une ère où tout s'archive sur Internet.
Oui, je sais. Et on espérons qu'éventuellement, ça va, cette histoire-là va mourir de sa belle mort, mais moi, je te dis, les gens qui aiment le paranormal souvent ont tendance à vite reprendre ce qu'ils voient ou ce qu'ils lisent, parce que ça vient ajouter à leur goût du mystère et ils poussent pas plus loin l'investigation. Il faut se rappeler aussi, puis ça c'est très important de retenir ça, à cette époque-là, on est dans les années 20, les années 30, puis je te dirais jusque dans les années 50-60, là, dans les journaux avaient des assises dans les grandes villes, les grands centres urbains. Donc, par exemple, si on regarde au Manitoba, ben, à Winnipeg, c'est sûr qu'il y avait un poste local de journaux. Ben, mais quand on tombait dans des régions rurales et éloignées, on s'en remettait essentiellement aux locaux pour la nouvelle. On disait aux gens, une espèce de courrier du lecteur, on disait aux gens, si y a des trucs, des faits divers qui se passent dans vos régions, comme on n'a pas de journalistes, comme on n'a pas les moyens d'envoyer des gens là-bas pour vérifier, on s'en remet à la bonne foi des lecteurs. Et le nombre de canulars qui ont été inventés par des gens à l'époque... C'était quasiment un jeu, hein. Les gens écrivaient aux journaux, puis que ce soit des journaux de New York, les journaux de Washington, les journaux de Montréal, hein, la presse qui était là à la fin du 19e siècle, le nombre de canulars qui ont été publiés dans les pages de la presse est tout à fait étonnant, hein, parce que la presse n'avait pas de journalistes en région, donc ils recevaient des nouvelles, des informations par le courrier du lecteur de soi-disant événements qui s'étaient produits à gauche, à droite, mais souvent rien de ça était vrai. C'était vraiment une espèce de jeu que certains faisaient d'envoyer des lettres aux journaux en espérant que leurs lettres, leurs canulars soient publiés. Puis là, ben, c'est un peu comme un défi.
La course au commérage.
Ouais, la course au commérage, un peu comme aujourd'hui dans les villes et les centres urbains. Hein, il y a comme des jeux entre les gens qui font des tags, par exemple. Celui qui va faire le plus gros tag, celui qui va être le plus impressionnant, celui qui va être le plus vu. Ben, c'est un peu la même chose qu'on faisait à l'époque. Des gens s'amusaient à raconter des canulars. Ils se croisaient les doigts. Souvent, c'était des petites communautés. On disait, on va écrire au journal de la ville, puis voir s'ils vont publier notre patente. Donc, il faut être très méfiant. Quand vous lisez là, des histoires là avant là, que le fax et tout ça commence à exister, les télex là, dans les années 50-60, où là, des télex permettaient de faire véhiculer, de faire transiter des informations, de vérifier des faits. Avant ces inventions-là, on s'en remettait beaucoup aux lecteurs. Donc, quand vous lisez des histoires qui semblent très extraordinaires, qui datent de la fin du 19e siècle ou début du 20e siècle, jusque dans les années 1930-1940, méfiez-vous. Quand c'est trop extraordinaire, il est bien possible que ce soit un bon bateau qui a été monté par quelques hurluberlus dans des villages dans le but de se moquer des journalistes de la ville, comme on les appelait, hein, cette espèce de bras de fer entre les communautés rurales et les gens de la ville qui pensent qu'ils savent tout et qui sont meilleurs que tout le monde. Donc on s'amusait un peu à faire ça.